France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron.
Le retour des loups en France, on en a vu dans l'arrière-pays niçois, plus précisément dans le parc national du Mercantour. Et face à cette réapparition, les responsables du parc national se réjouissent car les loups avaient disparu de France depuis la fin du siècle dernier.
L'intérêt pour le ministère de l'Environnement est total. Pour l'ensemble du monde scientifique, la présence du loup dans le parc national du Mercantour est un succès.
Un succès, dit cette ancienne responsable du parc du Mercantour. Et c'est vrai qu'en cette année 93, les naturalistes vivent le retour du loup comme une véritable résurrection, le symbole d'une nature enfin redevenue sauvage et authentique. Il faut donc tout faire pour protéger le loup, quitte à cacher certaines vérités. Bonsoir Jacques Monin.
Bonsoir.
Vous avez donc enquêté et vous vous êtes rendu compte que le loup célébré il y a 24 ans, lors de sa réapparition, était aujourd'hui, bien au contraire, de plus en plus à nouveau perçu comme une menace.
Oui, par certains et pour une raison très simple, c'est qu'il s'en prend aux troupeaux de moutons. Et contrairement aux premières années, les bilans sont parfois très lourds. Écoutez Guillaume Fabre, il élève des brebis à la roque d'Esclapon, c'est dans le Var, et les attaques de loups, c'est un peu son quotidien.
Au mois de décembre, fin d'année, là, j'ai eu une attaque, une des plus grosses qu'on a jamais eues. En une nuit, entre mortes, blessées, disparues, 45 bêtes entre brebis et agneaux. Et on en voit encore maintenant les conséquences. Il y a des brebis qui sont déjà faibles. On ne sait même pas pourquoi, du jour au lendemain, elles se mettent là, elles meurent. Il y a des agneaux qui sont minables parce que les brebis, elles ont été tuées pendant l'attaque. Et même nous, cette année, on a eu pas mal d'avortements, des brebis qui sont stressées, tout ça. Mais on est certain que ça vient à cause du loup. Ça se reproduit deux fois dans le troupeau, il part à la poubelle.
Effectivement, assez impressionnant hein, ce témoignage, et en plus, il est loin d'être isolé.
Oui, écoutez, Bruno Lecomte, lui, il élève des chèvres dans les Vosges. Alors, il y a quelques années, tout ça, ça lui semblait bien loin, mais aujourd'hui, eh bien, il doit revoir sa manière de travailler.
Maintenant, moi, je ne sors plus mes bêtes. La nuit, je les rentre à l'intérieur, elles ne peuvent plus manger de l'herbe la nuit. Et c'est bien dommage, parce que les chèvres, c'est avant tout quand même un herbivore, ça doit se nourrir d'herbe en été. C'est clair que moi, si je subis quelques attaques, sur mon exploitation, je n'ai que 55 chèvres, je peux perdre mon activité, je peux perdre mon travail, je peux tout perdre en quelques attaques.
Et pour mieux comprendre ce qui risque de lui arriver, eh bien Bruno Lecomte est allé voir ses collègues du Mercantour et il a été stupéfait de ce qu'il a découvert.
Les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils enferment leurs bêtes dans des bunkers pour se protéger des attaques de loups. Les brebis dorment dans des tunnels. Il n'y a pas de lumière, c'est humide, c'est sale. Quand les bêtes sont là plusieurs mois, c'est un grand désespoir qu'ils ont, ces éleveurs. Et c'est là qu'on voit le drame, en fait, qui arrive avec le loup, quoi.
Un drame parce que les brebis tuées par des loups sont chaque année, hein, Jacques Monin, de plus en plus nombreux.
Alors effectivement, alors qu'on en avait recensé 4000 en 2010, on en a dénombré 9000 l'an dernier. Vous voyez la progression, le nombre de victimes a plus que doublé en 5 ans.
Beaucoup plus de victimes donc, et des attaques de troupeaux de plus en plus fréquentes.
Oui, et pour Frédéric Danhé, qui a écrit un essai sur les loups et qui intervient souvent dans CO2 Mon Amour sur France Inter, c'est une catastrophe pour les troupeaux.
Quand une brebis a ressenti, a vu une attaque, elle est stressée, elle veut fuir, enfin voilà, et ça déstructure en fait la structure sociale des troupeaux de brebis, et ça désespère et ça fait peur aux éleveurs. Et donc plus la fréquence est importante, même si le loup ne prend rien, moins l'élevage peut se faire et moins le pastoralisme localement est durable. C'est ça le problème, c'est pas tellement le nombre de brebis, c'est la fréquence des attaques. Effectivement, cette fréquence augmente et remet en cause, enfin donne envie à beaucoup d'éleveurs de raccrocher.
Dites-moi Jacques Monin, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très très bien. Ces éleveurs, ils n'ont pas avec le temps réussi à trouver des parades anti-loups, des moyens au moins de s'en protéger?
Alors si c'est vrai, depuis 93, on subventionne les éleveurs pour qu'ils investissent dans des clôtures ou dans des chiens de protection. Mais beaucoup déchantent aujourd'hui parce que les loups ont appris à contourner ces dispositifs. C'est ce que constate Michel Meuret, il est directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche agronomique à Montpellier.
Les loups sont avant tout des animaux très intelligents, des animaux très opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont au plus simple et ils s'adaptent. Je prends un exemple que tout le monde va comprendre. À partir du moment où on met des troupeaux en parc de nuit, clôturés, électrifiés, sous la garde des hommes et des chiens, eh bien aujourd'hui on a 40% d'attaques qui se déroulent en journée. Et quand je dis en journée, c'est pas le soir à la tombée de la nuit, c'est à 2h de l'après-midi. Les loups ont appris que la nuit, c'est plus compliqué, donc on attaque de jour.
Des attaques de jour, de nuit, qui se multiplient donc, et tout ça, j'imagine que ça finit par coûter très cher.
Bah rien que pour l'an dernier, si on cumule le financement des mesures de protection et les indemnisations des bergers, on a dépensé près de 21 millions d'euros.
Et c'est donc pour toutes ces raisons que Ségolène Royal a annoncé le 27 avril dernier qu'elle souhaitait que le niveau de protection du loup soit abaissé. Et une déclaration pareille au ministère de l'écologie, ça... C'est un vrai changement de cap.
Oui, parce que jusqu'à il y a peu, la politique de son ministère, c'était plutôt au contraire une protection absolue. Et ce d'ailleurs dès le retour du loup en France. À cette époque, on en avait même quasiment fait un secret d'État.
Un secret d'État, là, vous n'y allez pas un petit peu fort, Jacques-Marie ?
Alors, pas vraiment, vous allez voir. En fait, tout débute en novembre 92, lorsque deux gardes du parc du Mercantour observent pour la première fois un couple de loups. Antoine Payon, du magazine Terre Sauvage, recueille leurs témoignages et écoutez-le à cette époque, ses interlocuteurs. Les locuteurs sont à la fois réjouis de ce qu'ils ont pu voir, mais en même temps assez inquiets.
Il y a eu à la fois un immense plaisir des deux personnes qui, les premières, ont observé le premier couple de loups dans le Mercantour, donc en France. Et en même temps, il y a eu une grande angoisse aussi, parce qu'ils ont eu aussitôt le sentiment que si c'était connu, il y avait le risque que ces deux loups soient très rapidement éradiqués.
Et pour éviter que ces loups ne soient menacés, eh bien on va, et ça c'est assez incroyable, on va tout simplement cacher leur retour.
Absolument, et Antoine Payon va d'ailleurs y contribuer lui aussi. À ce moment-là, il sait donc que les loups sont de retour, il voudrait bien l'écrire, mais en même temps il ne veut pas leur porter préjudice. Il y a un conflit quelque part entre le journaliste et le naturaliste. Comme il a des états d'âme, il consulte le ministère de l'écologie, et là on lui demande de taire l'information, ce qu'on demandera également d'ailleurs à d'autres de ses confrères.
Un journaliste, évidemment, dès qu'il a une information de ce type, qui avait quelque chose de l'ordre du scoop quand même, le retour des loups en France, son intention est évidemment de publier cette information. Mais étant par ailleurs quand même naturaliste, on s'est tourné vers la direction de la protection de la nature du ministère de l'Environnement et nous avons trouvé une sorte de compromis qui nous permettait de publier cette information, mais en laissant le temps à l'administration de préparer un peu le terrain du point de vue de la communication.
Oui, et précisément, le ministère gagnera ainsi un délai de 6 mois.
Sauf que lorsque les bergers vont apprendre qu'on leur a dissimulé la vérité, j'imagine qu'ils vont assez peu apprécier.
Bah oui, parce que le retour du loup, ça a forcément des répercussions sur leur activité. Or, on ne leur a rien dit. Il s'installe donc à partir de là une sorte de fracture entre éleveurs et pouvoir public. Et Pierre Pfeffer, qui présidait à l'époque le conseil scientifique du parc du Mercantour, le regrette d'ailleurs encore.
Le ministère de l'Environnement a manœuvré de façon extrêmement malhabile. Lorsque ces deux loups ont été aperçus et identifiés comme loups, le ministère de l'Environnement m'a tout de suite téléphoné. Surtout, n'en parlez à personne, il ne faut pas que ça se sache, etc. C'était évidemment ridicule, puisque ils étaient là, on les avait vus, on les avait aperçus. Au contraire, le fait de vouloir cacher leur présence, mentir en quelque sorte, il n'y a pas d'autre mot, ça, à mon avis, ça alimentait des soupçons.
Et les soupçons seront d'autant plus forts qu'on va se rendre compte que ce secret n'a pas été gardé seulement pendant 6 mois, mais pendant quasiment 2 ans.
Eh bien oui, parce que bien avant l'observation de novembre 92, on avait déjà des indices qui montraient que des loups étaient présents dans le Mercantour, tout comme à Cuneo d'ailleurs, côté italien. Et aujourd'hui, Denis Grandjean, qui dirigeait alors le parc national, ne s'en cache pas.
Nous avions des indications à la fois des observations de canidés ressemblant beaucoup à des loups dont on retrouvait des traces, des poils, des carcasses, des éléments divers, mais plus ou moins identifiables. Donc on avait déjà depuis 1990 des indications sur la dynamique de l'espèce et son impact probable sur la France.
Il y a donc eu une forme de mensonge, disons les choses, franchement.
Par omission, mensonge par omission, on n'a pas dit.
Mais dans quel but, Jacques Monin ?
Alors, faut savoir qu'à cette époque, on peut tuer des loups. Leur tirer dessus sans risquer d'être poursuivi, c'est possible. La France a bien signé alors une convention européenne dite de Berne qui protège ces loups en Europe, mais sans arrêté ministériel, cette convention ne vaut rien. Il s'enclenche donc une espèce de course contre la montre pour faire passer l'arrêté, et si possible, avant que la nouvelle devienne publique.
Et vous avez retrouvé un témoin de cette époque qui était aux premières loges.
Oui, elle s'appelle Martine Bigan. Elle travaillait à l'époque au ministère de l'écologie et elle se souvient très bien de cette période.
On ne voulait pas que le loup soit tiré. Et effectivement, à l'annonce de cette nouvelle, on a essayé de mettre en place des dispositifs de protection juridique du loup. Le loup n'était pas protégé. Alors, ça a pris du temps parce que c'était pas seulement le ministère de l'écologie qui a mis en place. Et il a fallu aussi convaincre le ministère de l'agriculture. Ça s'est fait relativement vite par rapport au processus de consultation qui sont toujours un peu longs. Donc tout ça prend un peu de temps. Peut-être que c'était une erreur, mais peut-être aussi qu'on a eu raison, je n'en sais rien.
Résultat, l'arrêté tant espéré est enfin signé en juillet 93. En France, le loup est maintenant protégé par la Convention de Berne. Satisfaction donc au ministère de l'écologie, mais les éleveurs, eux, ont le sentiment de s'être fait abuser.
Oui, on a clairement alors deux mondes qui ne se comprennent pas. Écoutez à ce sujet Paul Lapéroniste, un zootechnicien qui faisait partie du conseil scientifique du parc du Mercantour. À l'époque, des bergers commencent à s'inquiéter de la présence des loups. Ça contrarie le responsable du dossier au ministère de l'écologie et très remonté, l'homme convoque Paul Lapéroni à Paris.
Je ne peux pas dire que le premier contact soit très bien passé puisque sa première réflexion, ça a été de dire « Je vous ai fait venir parce que le loup a des problèmes avec les éleveurs. » Et peut-être j'étais naïf, un peu jeune, je lui dis « Non, c'est les éleveurs qui ont des problèmes avec les loups. » À ce moment-là, il s'est mis debout assez brutalement. Il a tapé les deux mains sur la table et plusieurs fois, il nous a dit « Non, pour l'instant, on ne touche pas au loup, il n'en est pas question, il faut que le loup puisse s'installer et revenir de façon permanente ou durable en France. »
Oui, pour vous donner une idée de l'ambiance à l'époque au ministère, un autre scientifique entend de la bouche d'un haut fonctionnaire « Les éleveurs, on les indemnise pendant quelques années pour les calmer et après, on les laisse se débrouiller. »
Au ministère de l'Environnement, on a donc choisi son camp. Si j'ose dire, les loups avant les agneaux.
Oui, alors il faut préciser qu'à l'époque, on croit vraiment qu'une meilleure présence des bergers auprès de leurs troupeaux, combinée aux chiens de protection, ça va suffire à régler le problème. Mais c'est vrai, on a alors à des postes clés du ministère des naturalistes, dont on verra d'ailleurs par la suite que certains prennent des responsabilités dans des associations de protection du loup. On peut dire qu'il y avait donc un lobby pro-loup aux commandes, et ce n'est pas surprenant pour le journaliste Frédéric Denré.
À la direction des services de l'État, c'est un sujet qui les embarrasse, et donc ils ont laissé le problème aux gens qui savaient ce que c'est que la nature. Et les gens qui savent ce qu'est la nature, c'est les gens de terrain, c'est les gens des parcs nationaux. Et donc il n'y a rien d'illogique que les personnels des parcs nationaux aient voulu absolument protéger ce qui pour eux était impensable, c'est-à-dire le retour du loup.
Et voilà comment donc on passe du grand méchant loup du 19e siècle à celui d'un animal idéal, symbole du retour du sauvage dans un monde, lui, urbanisé et pollué, bref, un loup qui est devenu quasi sacré.
Vous avez vu la grosseur des pattes ?
Des poteaux.
Et ses dents, et ses dents. Et
ses dents. Rangé de couteau.
L'approche, on dirait que vous cherchez le danger.
Non, il me lèche la main.
Alors Jacques Monin, un autre épisode a aggravé la fracture qui oppose une partie des bergers au pouvoir public. C'est ce qu'on pourrait appeler l'affaire du Var. Racontez-nous.
Oui, alors on dit toujours officiellement que le loup est revenu dans le Mercantour, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au même moment, eh bien, il se trouvait aussi dans le Var, dans le camp militaire de Canjouers, à 150 km de là. Il faudra en fait 7 ans pour que sa présence soit reconnue et 10 pour que les éleveurs perçoivent enfin leurs premières indemnisations.
Ce qui fait effectivement un décalage énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Var pour qu'on en soit arrivé là ?
Alors, pour le comprendre, écoutez Wadji Deli, lui élève des brebis à Trigance, près des gorges du Verdon. Dès 91, dit-il, il retrouve ses brebis mortes avec d'étranges morsures.
Il y avait des trous à la gorge, c'était vraiment significatif. Tous les mois, une fois par mois, deux fois par mois, c'était des pertes des brebis. Au début, c'était un peu les chèvres. Après, c'était les brebis noires. Après, au fil des années, c'était de nuit, de jour. Depuis les années 90, il doit y avoir peut-être plus d'un cheptel de 1000 brebis qui passaient là, entre perdus et égorgés. Ouais.
Ouais, on entend bien le désarroi de cet éleveur, mais à cette époque, personne ne lui a dit à ce monsieur qu'il s'agissait bel et bien de loups.
Non, non, à l'époque, on explore toutes sortes d'hypothèses. Lynx, puma, même lion, les gendarmes et les gardes de l'Office national de la chasse l'affirment alors. Il ne s'agit pas de loups. Un autre éleveur du secteur, d'ailleurs Patrice Garon, s'en souvient très bien.
Mes parents, à l'époque, donc, qui s'occupaient du troupeau, ressentaient un profond sentiment d'incompréhension. Les autorités n'acceptaient pas que l'on puisse dire que c'était des loups, n'acceptaient même pas que l'on puisse leur poser des questions.
Et du coup, parler de loups, bah, c'était à coup sûr ne pas être pris au sérieux. Écoutez le témoignage de Philippe Fabre, un autre éleveur du secteur, lui raconte que son propre vétérinaire préférait ne rien dire de ce qu'il avait vu.
Un jour, il était venu me faire la prise de sang sur mon troupeau, et bon, il a dit... Je suis vétérinaire, je sais ce que c'est les animaux, je suis presque certain d'avoir vu un loup sur le col du Bel Homme, à côté de mon troupeau de moutons. Mais seulement, bon, c'était des trucs, il fallait pas dire ça, parce que tu passais pour un gaga.
Un gaga, mais comment on peut expliquer qu'on a été aveugle à ce point? Là aussi, on a voulu cacher la vérité, ou bien on s'est simplement trompé, Jacques?
Alors, il faut savoir qu'en 93, pour décider d'attribuer au loup la responsabilité d'une attaque de troupeau, on se base alors sur des observations qui ont été faites par une chargée de mission qui a été envoyée dans le Mercantour. Et comme on manque de recul à ce moment-là, eh ben, elle en a tiré des conclusions erronées.
Et cet expert, elle s'est trompée comment?
Par exemple, elle a conclu que si on retrouve plus de 3 brebis tuées dans un troupeau, le loup ne peut pas être le coupable puisqu'il ne peut pas tuer autant de bêtes à la fois, ce qu'on sait maintenant être faux.
Cette chargée de mission, elle a eu d'autres critères aussi pertinents?
Bah oui, l'écartement entre deux morsures, s'il est inférieur à 38 mm, ça ne peut pas être non plus une morsure de loup. Or là aussi, on sait aujourd'hui que c'est faux.
Résultat, pendant des années, on a seriné aux éleveurs qu'il n'y avait pas de loup dans le Var, or, ils étaient bien là.
Oui, il faudra attendre 98 pour qu'une analyse ADN soit enfin réalisée sur un excrément. Alors cette fois la preuve est là, l'Office de la chasse et de la faune sauvage écrit alors au ministère de l'Environnement ce courrier qui nous est lu par Pascal Dervieux.
Je vous informe que la preuve de la présence du loup vient d'être faite dans le département du Var, à proximité du camp militaire de Canjuers. Sa présence dans cette région crée donc une situation particulièrement délicate, d'autant plus que des attaques continuent à être signalées par les éleveurs concernés.
Bon, on a fini par reconnaître l'évidence, mais au bout de 8 ans seulement, quand même, on a du mal à croire que ce retard est dû uniquement à des erreurs d'analyse.
Alors peut-être, mais les scientifiques qui ont repris le dossier après 93, eux expliquent qu'il était difficile d'être formel dans le Var, parce que l'animal se cachait dans le camp militaire de Canjuers, s'il était donc peu visible, et puis il ne laissait pas de traces de son passage dans la neige, notamment contrairement à ce qui avait pu être constaté dans les montagnes du Mercantour.
Dont acte, hein, Jacques Monin. En attendant, les éleveurs, eux, sont convaincus qu'on leur a menti, et si on leur a menti, c'est parce que l'État ne voulait pas leur révéler un secret.
Bien oui, en fait, nombreux sont les bergers qui sont convaincus que le loup n'est pas revenu naturellement par l'Italie, mais qu'il a été réintroduit artificiellement par l'homme, que les animaux sont arrivés par cage et que le ministère de l'Environnement a gardé le secret pour couvrir l'opération.
Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça change finalement que le loup soit revenu naturellement ou qu'on l'ait un peu aidé?
Alors en fait, ça change tout, parce que si la démonstration était faite que l'homme a bien réintroduit le loup, eh bien sa protection tomberait. Écoutez les explications de Denis Grandjean, l'ex-directeur du parc du Mercantour.
Le statut de protection du loup au terme de la Convention de Berne n'est pas le même à partir du moment où il y a eu une réintroduction artificielle ou pas. On considère que puisque l'homme est intervenu sur la nature, il peut reprendre à la nature ce qu'il lui a redonné, en quelque sorte. Et ça a une traduction juridique. Donc évidemment, derrière cette question sur la réintroduction artificielle du loup, se profile la question de la protection du loup.
Parce que le loup redeviendrait chassable ?
Le loup redeviendrait chassable, absolument. La réouverture de la chasse serait plus aisée que si la réintroduction est naturelle.
Alors là, effectivement, on comprend que l'enjeu est énorme et c'est bien pour ça que vous avez poursuivi votre enquête, Jacques Monin. Vous avez voulu savoir si oui ou non il y avait eu une réintroduction du loup par l'homme.
Oui, j'ai trouvé quelques exemples troublants. On peut d'abord citer un cas qui remonte à 1987. Près de 400 brebis sont mystérieusement tuées près de la commune de Fontan, dans le Mercantour. Lors d'une battue, un loup est finalement abattu et Pierre Pfeffer, qui travaille alors pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, fait l'autopsie de ce loup et il fait une découverte extraordinaire.
Il venait probablement de captivité, ça c'est sûr. Il avait des traces très nettes d'animal ayant subi la captivité. Il avait les coussins plantaires tout râpés, tout usés. Il avait des traces d'un collier. Enfin bref, c'était un animal manifestement issu de captivité. Mais d'où, je ne sais pas.
On ne sait vraiment pas d'où venait ce loup qui est issu de captivité.
Alors ça, non, je ne le sais pas non plus. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait à l'époque acheter des loups et des loups italiens. C'est ce qu'a démontré Jean-Pierre Laborde. En 1995, lui est correspondant du journal Le Monde à Nice. Il découvre qu'un parc à loups existe de l'autre côté du parc du Mercantour, à Cuneo, en Italie, et il n'est pas au bout de ses surprises.
Moi, j'ai appelé l'élevage, je me suis fait passer à l'époque pour un fan de nature sauvage, que ça m'intéressait d'étudier les similitudes qu'il pouvait y avoir dans le comportement du loup et du chien-loup. Et puis, petit à petit, en discutant avec la responsable de l'élevage, elle dit « Mais moi, j'aimerais bien quand même avoir un loup, même en captivité, chez moi, hein, mais j'aimerais bien, parce que ça me permettrait d'étudier un peu mieux les comportements. » Et à ce moment-là, le SEC m'a dit « Écoutez, venez me voir et on va en parler. J'ai mis, vous avez déjà des gens qui ont acheté des loups chez vous, qui ont pris des loups ?» Oui, ça arrive avec des gens que je connais et dont je suis sûr. »
Bon, ce témoignage établit donc qu'il était possible de se procurer des loups, mais ça ne prouve pas qu'on en ait relâché volontairement.
Alors, c'est exact, mais en poussant un peu plus loin mon enquête, un témoin que nous avons déjà entendu, Pierre Pfeffer, qui présidait, je vous le rappelle, le conseil scientifique du parc du Mercantour, Pierre Pfeffer m'a quand même fait une véritable révélation.
Alors là, vous nous intriguez, hein, Jacques Monin.
Alors, il m'explique en fait avoir fait en 1993 la rencontre d'un passionné de loups qui s'appelle Jacques Delperrier de Bayard. L'homme a un secret à lui confier et c'est donc de manière quasi clandestine que Pierre Pfeffer va le rencontrer à Paris.
Nous devions nous rencontrer boulevard Saint-Michel. Moi, je devais tenir un journal à la main. Enfin, vous voyez, ça n'a pas été facile puisqu'il fallait qu'il ait confiance en moi. Mais lorsque je l'ai rencontré et qu'il a vu qu'a priori, mon projet n'était pas de le trahir, il m'a emmené chez lui. Et il avait, en effet, trois grandes cages dans lesquelles il avait eu des loups. Et lorsque le scandale, si j'ose dire, du loup a éclaté, il a décidé de ne pas garder les deux qui lui restaient, mais de les lâcher. Alors il les a lâchés dans la région du Mercantour.
Il y a donc une certitude, on a bien lâché un couple de loups dans le Mercantour autour de 1993. Mais il y a forcément une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut s'agir, Jacques, du tout premier couple de loups qui avait été repéré ?
Non, alors là, il faut être très très clair, ça c'est impossible. Et pour une raison très simple, c'est que les loups de Delperrier de Bayac venaient d'Europe de l'Est, alors que le premier couple qui a été aperçu dans le Mercantour, lui, était de lignée italienne.
Alors, au-delà de ce cas, est-ce qu'il y a eu d'autres Delperrier de Bayac, voire est-ce qu'il n'y a pas eu une politique secrète de réintroduction ?
Bon, alors avant de répondre, il faut savoir quand même qu'à la fin des années 80, des projets très sérieux de réintroduction, il y en avait qui circulaient, ils étaient dans l'air. Laurent Garde est coordinateur d'une association de promotion du pastoralisme qui s'appelle le SERPAM, c'est à Manosque. Lui a répertorié certains de ses projets, y compris dans des sphères très officielles.
Le cadre réglementaire de la Convention de Berne, géré par le Conseil de l'Europe, recommander officiellement aux États membres, aux États signataires, d'une part d'élever des loups en captivité, de procéder à des lâchers, etc. Donc on était non pas sur quelque chose d'exceptionnel et d'invraisemblable, mais au contraire, on était au cœur de la protection du loup et de la politique faite pour le protéger. Les scientifiques italiens publiaient des articles scientifiques où ils décrivaient l'élevage de loups italiens en captivité et où ils donnaient le double objectif de cet élevage en captivité. D'une part, retrouver la pureté de la race et d'autre part, repeupler, accélérer la colonisation du loup.
Oui, on peut encore citer les projets de Gérard Ménatoriste, un ami de Brigitte Bardot. À l'époque, lui dit alors clairement qu'il travaille, qu'il aimerait pouvoir réintroduire des loups.
Pour autant, est-ce que ces projets ont été ou non mis en œuvre ?
Alors écoutez à ce sujet Martine Bigan, qui travaillait au ministère de l'écologie dans ces années-là. Elle dément, elle, que ces projets aient une suite.
Il y avait, je dirais légitimement, de la part de certains, le souhait de réintroduire le loup. Tout comme il y a eu des projets de renforcement de la population d'ours, il aurait très bien pu y avoir un projet de réintroduction de loup.
Donc c'était des souhaits, des intentions, une volonté ?
Oui, mais encore une fois, pas complètement.
Mais qui ne s'est jamais traduit dans les faits ?
Non, bien sûr que non.
Cet ex-fonctionnaire ministériel dément donc qu'il y ait eu une décision officielle de réintroduction du loup.
Est-ce qu'elle est crédible?
A priori, oui. En tout cas, j'ai trouvé aucun élément qui permette de ne pas la croire. D'autant plus qu'une étude qui a été, elle, publiée en 2004, a ensuite prouvé que les loups italiens pouvaient très facilement venir en France. Écoutez Marie Lazarine Poul, elle est docteure en comportement animal. Ce travail, dit-elle, a été réalisé par des chercheurs sur une bête qui avait été capturée.
C'est un jeune loup, un loup immature, en fait, qui avait été blessé. Ils l'ont récupéré, puis ils l'ont équipé d'un collier GPS, ils l'ont lâché et ils ont suivi du coup ses déplacements pendant plusieurs mois. Et en fait, ce loup est justement allé du nord des Apennins jusqu'aux Alpes du Sud. Donc il a fait le trajet qu'on imaginait être celui des premiers individus colonisateurs des Alpes françaises. On s'est rendu compte d'ailleurs que dans son trajet, il a traversé des autoroutes, il est passé dans des plaines agricoles, il est passé à pas mal d'endroits où, par exemple, les personnes qui ne pensaient pas au retour naturel du loup s'imaginaient qu'un loup ne pouvait pas passer, que c'était impossible.
Oui, vous l'avez compris, la conclusion de tout ça, c'est donc qu'avec ou sans lâcher, les loups seraient de toute façon revenus en France.
Donc, si on se résume, le loup, à une ou quelques exceptions près, est bien revenu naturellement. Cela dit, depuis, il n'a cessé de coloniser de nouveaux territoires, puisqu'aujourd'hui, on trouve sa trace dans 33 départements, dont peut-être même en Seine-et-Marne, aux portes de Paris. Est-ce qu'on sait précisément, Jacques Monin, combien il y a de loups en France?
Oui et non, en fait. Oui, parce qu'il existe bien un organisme appelé le réseau Loup, Loup-Lynx, qui publie des statistiques à partir d'observations faites par des gardes ou des bénévoles sur le terrain. Mais le problème, c'est que des associations de protection du loup appellent leurs adhérents à boycotter ce réseau. Écoutez ce qui est mis en ligne sur le site officiel de Férus, qui est une de ces associations. Ce texte nous est lu par Benoît Colomba.
Nous demandons dès aujourd'hui à tous les adhérents et sympathisants de Férus et à tous les amis du loup, dont certains sont des correspondants officiels du réseau Loup, de ne plus transmettre aucune de leurs données à l'ONCFS et donc au gouvernement. Nous leur demandons également de détruire tous les indices de présence du loup, recouvrement des pistes de loup dans la neige, enlèvement des crottes trouvées sur les chemins, etc.
Détruire les indices de présence, comment on justifie un tel appel à Férus?
Eh bien écoutez Martine Bigan, l'ancienne fonctionnaire du ministère de l'Environnement, il se trouve qu'elle est aujourd'hui administratrice de Férus et elle assume cette décision.
On s'est aperçu qu'en fait, la fourniture d'indices par les bénévoles de Férus ou d'autres associations pouvait servir pour tirer des loups. Et comme actuellement, nous avons une attitude contre les tirs de loups autorisés par le ministère, les associations ont décidé de ne plus fournir les indications sur la présence de loups.
Après, ça pose la question de la fiabilité des chiffres. Quelle fiabilité peut-on accorder à des chiffres qui reposent sur des indices de présence qui sont faussés de fait ?
Ils sont pas faussés, parce que l'Office national de la chasse, par son réseau, fournit le suivi du loup. Et
mais dans ce réseau, il y a aussi des gens qui sont sensibles à votre message.
Oui, donc, tout à fait. Ce que les gens font individuellement, ça c'est autre chose. Mais non, je pense qu'on ne peut pas suspecter l'Office national de la chasse de cacher des informations.
Non, je ne dis pas qu'il cache des informations, mais je dis que si les informations ne remontent pas ou remontent moins, forcément on va minimiser. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous recherchez. Est-ce qu'on minimise la population de loups pour éviter qu'il y ait plus de tirs?
Non, on ne cherche pas à minimiser la population de loups. On cherche surtout à ce que les données sur la présence de loups ne servent pas à tirer des loups.
Bon, tout ça, ça pourrait quand même expliquer pourquoi les statistiques publiées sont, surprenantes.
C'est difficile à dire. En tout cas, on a d'un côté, effectivement, des loups qui gagnent du terrain, qui attaquent de plus en plus de brebis, et de l'autre, un nombre de loups qui, lui, est officiellement à la baisse. On en recensait 300 en 2014, et l'année suivante, on en annonçait plus que 280. Pour le président du Parc national du Mercantour, en tout cas, Charles-Ange Ginesi, ces chiffres sont fantaisistes.
Moi, on ne peut pas m'expliquer que le nombre de loups aujourd'hui est stabilisé, voire régresse en certains secteurs, quand il gagne un département par an. Le loup, s'il gagne un département par an, ça veut dire que là où il est, il laisse de l'espace et il y a de nouvelles meutes qui se créent, il y a de nouvelles naissances et il se propage, ce qui est naturel et normal. Donc, il ne faut pas nous dire que le comptage fait que le nombre de loups est stabilisé. Je n'en crois pas un mot.
Et il n'est pas le seul à être sceptique. Au CERPAM, au Centre de Promotion du Pastoralisme, à Manosque, Laurent Garde, lui aussi, s'interroge sur la fiabilité de ces chiffres.
Quand j'explore la littérature scientifique européenne, Si je prends les surfaces occupées par les loups de façon permanente dans trois pays tout à fait comparables qui sont l'Espagne, l'Italie et la France, j'ai des densités de loups doubles en Italie et en Espagne par rapport à la France.
Alors qu'est-ce qu'on répond à ces arguments du côté du réseau loup ?
Eh bien écoutez son responsable, Éric Marboutin, lui rejette les critiques de ses détracteurs.
Quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui conditionne en grande partie l'augmentation du nombre total d'attaques attribuées aux loups en France, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus la progression géographique de l'espèce que l'augmentation numérique.
Vous savez qu'une association comme Férus, et elle ne s'en cache pas, demande à ce qu'on ne fasse pas remonter les indices de présence, voire qu'on les supprime. Il y a forcément dans votre réseau des gens qui sont sensibles à ce message-là. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque d'information faussée ?
Évidemment que toutes les informations ne sont pas détectées, mais la force de notre système, c'est que justement, nous utilisons des traitements mathématiques derrière pour compenser le fait que toutes les informations ne sont pas détectées.
Le réseau justifie donc ces chiffres à l'aide d'un modèle mathématique, pourquoi pas ? Sauf que même le ministère de l'Environnement doute de ces chiffres.
Oui, alors il faut savoir qu'en novembre dernier, dans une réunion du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, Ségolène Royal est interrogée sur le nombre de loups qu'il y aurait en France. Et quel chiffre est-ce qu'elle donne ? Eh bien, pas celui officiel du réseau loup, celui de 280. Elle affirme, elle, qu'il y aurait en France, en fait, entre 500 et 600 loups.
Ce qui va quand même du simple au double.
Bah oui, ça change beaucoup de choses, du reste, parce que à 280, on peut toujours considérer que le loup est menacé, donc il ne faut pas y toucher. Tandis qu'à 600, on peut aussi estimer que ce n'est plus le cas. Et donc qu'on peut, comme l'État le fait depuis peu, autoriser qu'on tue un quota de loups chaque année.
Et cette confusion, elle n'arrange rien.
Bah non, parce qu'en attendant, la pression sur les éleveurs, elle continue. À tel point d'ailleurs que Charles-Ange Ginesi, le président du parc du Mercantour, redoute maintenant des dérapages.
Au siècle dernier, pour se débarrasser du loup, les éleveurs n'ont eu recours qu'à une seule technique. L'empoisonnement du loup a eu lieu, et par l'empoisonnement, il y a eu un empoisonnement de toute la chaîne écologique. C'est-à-dire que ça a donné un dégât dévastateur sur l'ensemble de la faune de nos territoires. Et ce jour-là, tout le monde aura perdu, donc il faut vraiment trouver la solution.
Ça, c'est donc un danger pour les loups et pour l'environnement, mais il existe aussi un autre risque.
Oui, un risque que Pierre Braque, lui, c'est un ancien inspecteur général de l'agriculture, soulignait déjà dans un rapport qu'il avait rédigé en 1998. Si les loups quittent les montagnes pour descendre dans les plaines, dit-il, les indemnisations exploseront et les dégâts deviendront ingérables.
Dans l'arc alpin, on est en système extensif, c'est-à-dire en zone de liberté. Alors que lorsqu'on arrive en moyenne montagne, là, nous trouvons des élevages bovins. Quand vous aurez des vaches de race Hupra, vous savez, qui ont de très grandes valeurs marchandes et qu'il faudra indemniser, ou des chevaux, des équidés, là, les indemnisations seraient considérables. Et je pense qu'à ce moment-là, est-ce que l'argent sera suffisant? Les moyens financiers seront-ils suffisants pour continuer à indemniser dans les régions de montagne?
Mais la menace donc sur les troupeaux de bovins, elle existe aujourd'hui?
Bien sûr, il est évident que plus il descendra, plus il ira dans ces régions de moyenne montagne, eh bien il y aura de la prédation et les indemnisations, imaginez, seront certainement plus les mêmes.
Bon, à vous entendre, hein, à l'issue de votre enquête, Jacques Monin, on a quand même le sentiment que ça va être très dur de trouver une solution qui satisfasse tout le monde.
Bah pour ça, il faudrait que les loups restent dans des zones où ils ne dérangent personne, où ils peuvent se nourrir de gibier, et que l'homme reste, lui, dans les zones habitées ou les zones d'élevage. Ça, c'est ce à quoi rêve Michel Meuret, le spécialiste du loup à l'INRA, à Montpellier. Mais pour arriver à ça, dit-il, il faudrait d'abord réapprendre aux loups à avoir peur de l'homme.
Il est quand même frappant aujourd'hui de constater que, dans certains massifs, lorsqu'on tire au fusil, les loups ne bougent pas, continuent à regarder les humains et leurs fusils. Ce qui veut dire qu'ils se sentent totalement en sécurité, même face à des humains armés. Donc là, il faut leur réapprendre à qu'est-ce que c'est que des humains, et que des humains sont là pour protéger leur bétail, et qu'il faut rester à se nourrir sur la faune sauvage, et ne pas venir quasiment dans les cours de ferme pour venir se servir impunément dans les troupeaux.
Alors ça, c'est donc une piste. Maintenant, pour que les choses avancent, il faudrait peut-être aussi sortir de ce clivage passionnel qui oppose toujours les pros et les anti-loups. Denis Grandjean, l'ex-directeur du parc du Mercantour, pense, lui, qu'il est temps de désacraliser le loup.
Il faut en finir avec les débats de « on touche pas au loup parce qu'on toucherait à un édifice sacré de la protection de l'environnement en France ». C'est une espèce absolument pas en voie de disparition, ni en Europe, ni en Amérique. Par conséquent, le prélèvement sur les populations de loups, si on veut maintenir un pastoralisme dans certaines zones de la France où on considère que le pastoralisme contribue à l'équilibre des milieux, à la gestion des paysages, etc., mais c'est un choix à faire et qu'il faut assumer clairement et franchement.
Voilà donc pour l'avis de Denis Grandjean, mais face à des associations de protection du loup plutôt radicales, est-ce qu'il a simplement une chance d'être entendu?
Alors en tout cas, qu'on le veuille ou non, cette réflexion, on voit qu'elle est déjà en marche. Même certains verts, même s'ils sont minoritaires, se demandent si les loups ne finiront pas par mettre en danger la biodiversité, si les troupeaux devaient déserter les montagnes. En tout cas, on peut rêver de dépassionner les choses, que des décisions rationnelles soient prises, mais il faudra en passer par là si on veut que bergers et loups puissent un jour vivre tranquilles, chacun de son côté.
Précisons que vous avez demandé de multiples fois à Ségolène Royal de s'exprimer à notre micro, mais que la ministre n'a pas donné suite à notre invitation. Merci beaucoup Jacques Monin pour ce voyage au pays des loups et pour cette enquête très fouillée, pour au-delà des passions, tout simplement essayer, c'est ce qu'on a tenté de faire en tout cas, essayer de démêler le vrai du faux. Vous pouvez bien sûr nous envoyer tous vos commentaires, on lira, on répondra et vous pouvez aussi retrouver cette enquête en intégralité, en texte et en images sur notre site internet France Inter et sur la page Facebook de Secret d'Info.
Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup. Ouh, cha-cha-cha de loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi. Je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois.